Bonjour à toutes et à tous. Ave, ave, fratres, sororesque, in Jérusalem. Il ne vous aura pas échappé que depuis une semaine, c'est le bezoum à Jérusalem. Sur toutes les taboulae des socialistes Retiakoula, sur Faciès Caprae, sur Twitus, sur Tikum Tokum, sur Istum Grama, tout le monde parle du Ludaeorum Rex. Décidément, mon latin est vraiment déplorable. Je vois que vous ne comprenez pas grand-chose à ce que je raconte. Si vous le permettez, je vais continuer en langage vulgaire. Depuis une semaine, c'est le buzz à Jérusalem et sur tous les réseaux sociaux, sur Faciès Caprae, sur Twitus, sur Tikum Tokum, sur Istum Grama et bien d'autres. Les Juifs auraient un roi. Il aurait même fait son entrée à Jérusalem. Tout a commencé dimanche dernier, comme nous l'a rappelé Gilles tout à l'heure. Alors je vais essayer de vous faire une synthèse de cette semaine extraordinaire et pleine de rebondissements. Il y a eu l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, qui nous a été relue tout à l'heure. Jésus est rentré à Jérusalem sur un âne. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus ont crié « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les cieux très hauts. » Jésus est entré à Jérusalem dans le temple. Quand il a eu tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en est allé à Béthanie avec les douze. C'est l'apôtre Marc qui nous rapporte ces faits. Alors nous assistons bien ainsi à une entrée triomphale. Beaucoup de gens étendent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des branches qu'ils coupent dans les champs. Ce sont là des démonstrations qui se pratiquent pour rendre à un roi des honneurs extraordinaires. Les Juifs sont sûrs que le Sauveur qu'ils attendent depuis si longtemps pour les délivrer de l'occupation romaine est enfin arrivé. Ils en veulent pour preuve que les deux prédictions de Ésaïe et Zacharie ont été réalisées en même temps. Et Gilles nous les a rappelées tout à l'heure. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur arrive. Ésaïe 62, 11. Et puis éclate de joie, Jérusalem. Crie de bonheur, ville de Sion. Regarde, ton roi vient à toi, juste et victorieux, humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les ânes qui étaient la monture des rois à l'époque. Et si quelqu'un vous dit, pourquoi détachez-vous cet ânon ? Répondez, je dirais, répondez tout simplement, le Seigneur en a besoin. Pas de doute, une preuve de plus que le roi arrive. Et la foule de crier « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Hosanna signifie « Sauve, je te prie. Sauve, je te prie. » Et les mots « dans les lieux très hauts »,« Hosanna dans les lieux très hauts » marquent le fait que cette prière est destinée à monter jusqu'au trône de Dieu. Ces vives acclamations s'adressent au fils de David, c'est-à-dire au roi Messie attendu. Pour la foule, il n'y a aucun doute. Par tous les miracles qu'il a faits, par son enseignement qui est partout reconnu comme donné avec autorité, par les événements prédits qui se sont réalisés, Jésus ne peut être que le roi, le Messie attendu. Et finalement, à la fin de cette journée de liesse, Jésus entre dans le temple, considère tout ce qui s'y passe, et comme il était déjà tard, décide de retourner à Béthanie pour passer la nuit avec les 12. Le lendemain, après qu'il soit sorti de Béthanie, Jésus a faim. Apercevant de loin un figuier qui a des feuilles, il va voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouve que des feuilles, car ce n'est pas la saison des figues. Prenant alors la parole, Jésus dit « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'ont bien entendu. Ils arrivent ensuite à Jérusalem et Jésus entre dans le temple. Il se met à chasser ceux qui vendent et achètent dans le temple. Il renverse les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laisse personne transporter aucun objet à travers le temple. Il dit, « N'est-il pas écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations ?»« Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs !» Jésus entre dans le temple et fait place nette. Il chasse tout ce qui de près ou de loin correspond à un trafic. Lors du sermon sur la montagne, il a dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir à la fois Dieu et Mammon, c'est-à-dire vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. » Cette intervention nous montre bien la sainteté de Jésus qui s'exprime dans cette sainte colère. L'apôtre Jean dira plus tard, « Ses disciples se sont souvenus qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Jean 2, verset 17. Nous sommes ainsi appelés à reconnaître la sainteté de Dieu à travers celle du Christ. Tôt le lendemain matin, tandis qu'il passe le long du chemin, il voit le figuier. Il est complètement sec jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui est arrivé la veille, dit à Jésus, « Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est devenu tout sec, sous-entendu tout sec en un seul jour, du haut jusqu'en bas, jusqu'aux racines. » Jésus dit alors à ses disciples, « Je vous le déclare, c'est la vérité, ayez foi en Dieu. » Si quelqu'un dit à cette colline, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela arrivera pour lui. C'est pourquoi je vous dis, dit Jésus, quand vous priez pour demander quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera donné. Et quand vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi le mal que vous avez fait. Jésus nous invite à exercer notre confiance en lui. Pour toutes nos demandes, croyez que vous l'avez reçu, c'est-à-dire sans douter, avec certitude, comme un enfant qui demande un morceau de pain à son père sans avoir le moindre doute, sans même se poser la question, dans la confiance absolue qu'il va l'avoir. Mais Jésus précise bien que notre prière doit être exempte de ressentiment. Si nous avons quelque chose à pardonner à quelqu'un, il nous faut au préalable pardonner. Jésus enseigne tous les jours dans le temple, et les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple cherchent à le faire périr. Mais ils ne savent pas comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoute avec admiration. Les sacrificateurs, les scribes, les principaux du peuple cherchent donc à le piéger par tous les moyens. Par exemple, les pharisiens envoient quelques-uns de leurs disciples et quelques membres du parti d'Hérode dire à Jésus, « Maître, nous savons que tu dis la vérité. » Tu enseignes la vérité sur la conduite que Dieu demande. Tu n'as pas peur de ce que pensent les autres. et tu ne tiens pas compte de l'apparence des gens. Dis-nous donc ce que tu penses de tout ceci. Notre loi permet-elle ou non de payer des impôts à l'empereur romain ? Mais Jésus connaît leurs mauvaises intentions. Il leur dit alors, « Hypocrites, pourquoi me tendez-vous un piège ? Montrez-moi l'argent qui sert à payer l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'argent. Et Jésus leur demande, « Ce visage et ce nom gravé, de qui sont-ils ? » « De l'empereur. » Alors Jésus leur dit, « Payez donc à l'empereur ce qui lui appartient, et à Dieu ce qui lui appartient. » Quand ils entendent cette réponse, ils sont remplis d'étonnement. Ils le laissent et s'en vont. Un autre exemple. Un pharisien, un maître de la loi, veut lui tendre un piège. Il demande à Jésus, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répond, « tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. » Et voici le second, Jésus ne se laisse pas piéger, et voici le second commandement qui est d'une importance semblable. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements. C'est-à-dire, toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes doivent être vus, écoutés, entendus, est mise en pratique à travers ces deux commandements. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il faut bien reconnaître que l'autorité de ce Jésus est étonnante, surtout quand on sait qu'il est fils d'un charpentier de Nazareth. Personne ne peut lui résister, personne n'arrive à le prendre en défaut. Il déjoue les pièges que lui tendent les autorités, les plus grandes autorités ecclésiastiques de l'époque. Ne serait-il pas vraiment le roi des Juifs, le Messie attendu ? Cette question divise toute la population. Et puis, on nous a rapporté un incident étrange. Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Une femme s'est approchée de lui avec un flacon d'albâtre plein d'un parfum d'une grande valeur. Elle a versé ce parfum sur la tête de Jésus pendant qu'il était à table. Quand les disciples ont vu cela, ils ont été indignés. Ils ont dit « Pourquoi ce gaspillage ? On aurait pu vendre ce parfum très cher et donner l'argent aux pauvres. » Jésus s'est bien rendu compte qu'il parlait ainsi, et il leur a dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Ce qu'elle a accompli pour moi est beau, car vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours avec vous. » Elle a répandu ce parfum sur mon corps afin de me préparer pour le tombeau. « Je vous le déclare, c'est la vérité, dit Jésus, partout où on annoncera cette bonne nouvelle, dans le monde entier, on racontera ce que cette femme a fait et on se souviendra d'elle. » Pourquoi parle-t-il de son tombeau ? Qui est cette femme ? Qu'est-ce que tout cela veut dire ? Il est vrai que, d'après ses disciples, ce Jésus a annoncé sa mort prochaine. Et plus incroyable encore, il a dit qu'il ressusciterait le troisième jour. Ça s'est passé quand ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem. Jésus marchait devant ses disciples qui étaient inquiets en approchant de Jérusalem. Et ceux qui les suivaient avaient peur. Jésus a pris à ce moment-là de nouveau les disciples, les 12 disciples avec lui, et s'est mis à leur parler de ce qui allait bientôt lui arriver. Il leur a dit, « Écoutez, nous montons à Jérusalem où le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux maîtres de la loi. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens. Ceux-ci se moqueront de lui, cracheront sur lui, le frapperont à coups de fouet et le mettront à mort. Et après 3 jours, il se relèvera de la mort. C'est incroyable, n'est-ce pas? C'est même complètement incompréhensible. Si ce Jésus est le Messie, pourquoi devrait-il mourir? Quant à croire qu'il va mourir et revenir à la vie, je vous les juge, c'est pour le moins difficile à croire. Et c'est pas tout, vous allez voir. Nous arrivons à jeudi. C'est le jour du début de la fête juive de la Pâque. C'est la fête qui marque pour les Juifs le souvenir de la sortie d'Égypte, quand les Hébreux ont été libérés de l'esclavage et qu'ils ont quitté l'Égypte. Je m'imagine toujours, quand ils font le recensement après, ils sont plus de 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Vous imaginez cette sortie d'Égypte? Ça fait 1 200 000, 1 300 000, je ne sais pas, avec les enfants, 1 500 000 personnes qui sortent d'Égypte et qui partent pour le désert. C'est incroyable. Et c'est donc cette fête de la Pâque que les Juifs célèbrent. C'est pour ça qu'il y a à Jérusalem toute une foule de gens venus à cette occasion. Le premier jour de la fête des pains sans levain, le jour où l'on sacrifiait les agneaux pour le repas de la Pâque, les disciples de Jésus lui ont demandé « Où veux-tu que nous allions te préparer le repas de la Pâque ?» Alors Jésus a envoyé 2 de ses disciples en avant, avec l'ordre suivant « Allez à la ville, vous y rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau. » Alors à l'époque c'était plutôt étonnant parce que c'est les femmes qui portaient l'eau, pas les hommes normalement. « Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire de la maison « Le maître demande « Où est la pièce qui m'est réservée, celle où je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples ?» Et il vous montrera, en haut de la maison, une grande chambre déjà prête, avec tout ce qui est nécessaire. C'est là que vous nous préparerez le repas. Les disciples sont partis et sont allés à la ville. Ils ont tout trouvé comme Jésus le leur avait dit. Et ils ont préparé le repas de la Pâque. Le soir, Jésus est arrivé avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus a dit « Je vous le déclare, c'est la vérité, l'un de vous qui mange avec moi me trahira. » Les disciples sont devenus tout tristes et ils lui ont demandé l'un après l'autre « Ce n'est pas moi, n'est-ce pas ?» Jésus leur a répondu « C'est l'un d'entre vous, les 12, quelqu'un qui trempe avec moi son pain dans le plat. » « Certes, le Fils de l'homme va mourir, comme les Écritures l'annoncent à son sujet. Mais quel malheur pour celui qui trahit le Fils de l'homme. Il aurait mieux valu pour cet homme-là ne pas naître. » Pendant le repas, Jésus a pris du pain, et après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et l'a donné à ses disciples en disant « Prenez, ceci est mon corps. » Il a pris ensuite une coupe de vin, et après avoir remercié Dieu, il la leur a donné, et ils en ont tous bu. Jésus leur a dit, ceci est mon sang, le sang qui garantit l'alliance de Dieu et qui est versé pour une multitude de gens pour le pardon des péchés. Je vous le déclare, c'est la vérité, dit Jésus, je ne boirai plus jamais de vin. Jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau dans le royaume de Dieu. Vraiment extraordinaire, n'est-ce pas? Si je résume, Jésus de Nazareth, le fils du charpentier, celui qui parle avec autorité comme personne, dont le rayonnement ne cesse de passionner les foules, celui qui est capable de guérir toutes les infirmités et toutes les maladies, celui qui pourrait bien être le roi des Juifs, le Messie, nous annonce qu'il va être trahi et qu'il va mourir prochainement et qu'il va revenir à la vie le 3e jour après. Il nous dit que le pain est son corps et que son sang marque la garantie d'une alliance que Dieu propose à tous les humains. Comment concilier toutes ces informations? Que penser de ce Jésus? Qu'y a-t-il à comprendre? Quelle est cette alliance? Y a-t-il un plan de Dieu pour l'humanité? Et si oui, quel est-il? Pourquoi le peuple élu n'est-il pas seul à bénéficier de cette nouvelle alliance? C'est tout ça qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Les idées les plus folles circulent. Et ce n'est pas fini. Vous savez, sur les réseaux sociaux, il circule tout le temps plein d'idées. Hein. Alors ça, c'est pas fini. Attendez la suite. Après avoir chanté les cantiques, ils se sont rendus à la montagne des Oliviers. Et la nuit même, Jésus a effectivement été trahi et arrêté. Il a dit à ses disciples, « Vous dormez encore et vous vous reposez. Mais c'est fini, l'heure est arrivée. Maintenant, le Fils de l'homme va être livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y. Voyez, l'homme qui me livre à eux est ici. » Jésus parlait encore quand Judas est arrivé, l'un des 12 disciples. Il y avait avec lui une foule de gens armés d'épées et de bâtons. Ils étaient envoyés par les chefs des prêtres, les maîtres de la loi et les anciens. Judas, celui qui leur livrait Jésus, avait indiqué à cette foule le signe qu'il utiliserait. « L'homme que j'embrasserai, c'est lui, saisissez-le et emmenez-le sous bonne garde. » Dès que Judas est arrivé, il s'est approché de Jésus et lui a dit « Maître », puis il l'a embrassé. Les autres ont alors mis la main sur Jésus et l'ont arrêté. Il a été amené devant le conseil supérieur. De nombreuses fausses accusations contradictoires ont été portées contre lui. Mais rien de cohérent, rien de probant. Jésus, quant à lui, n'a rien répondu. Et l'assemblée n'a rien trouvé de concret à lui reprocher. Là-dessus, le grand prêtre l'a interrogé de nouveau. « Es-tu le Messie, le Fils de Dieu, auquel vont nos louanges ?» Jésus a répondu, « Oui, je le suis. » Ça nous a été rappelé aussi par Gilles tout à l'heure. « Et vous verrez tous le Fils de l'homme siégeant à la droite du Dieu puissant. Vous le verrez aussi venir parmi les nuages du ciel. » Dans tout ce tumulte, devant cette assemblée hostile, Jésus n'a ouvert la bouche qu'une seule fois pour affirmer une seule chose et l'affirmer, on ne peut plus clairement, oui, il est bien le Messie, le Fils de Dieu. On aurait pu penser que devant cette affirmation, le conseil supérieur allait chercher à en savoir plus, à vérifier ses dires. D'ailleurs, ils avaient déjà de très nombreux témoignages. Depuis 3 ans que Jésus parcourait toute la Judée, la Galilée et la Samarie et prêchait en tout lieu et en tout temps. Mais dans cette affaire, le sentiment qui a dominé la plupart des membres du Conseil supérieur, à l'exception notable de Nicodème et de Joseph d'Arimathée, le sentiment de tous les autres membres du Conseil supérieur, c'est la jalousie. Au mieux, ils ne croient pas en Jésus. Au pire, ils craignent pour leur position sociale et leur pouvoir. De son côté, Jésus ne s'est pas fait d'illusions et savait très bien ce qui allait advenir. Pourtant, fidèle à son père et répondant à la question du grand prêtre, il n'a pas hésité. Il a affirmé « Oui, je le suis, le Messie. Et vous verrez tous le Fils de l'homme siégeant à la droite du Dieu puissant. » Vous le verrez aussi venir parmi les nuages du ciel. » Alors le grand prêtre a déchiré ses vêtements et a dit « Nous n'avons plus besoin de témoins. Vous avez entendu cette insulte faite à Dieu. Qu'en pensez-vous ? » Tous ont déclaré qu'il était coupable et qu'il méritait la mort. Quelques-uns d'entre eux se sont mis à cracher sur Jésus. Ils lui ont couvert le visage, l'ont frappé à coups de poing et lui ont dit « Devine qui t'a fait cela ?» Et les gardes ont pris Jésus et lui ont donné des gifles. Les chefs des prêtres, les anciens et les maîtres de la loi l'ont fait ligoter, l'ont emmené et l'ont livré à Pilate. Celui-ci l'a interrogé. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus a répondu, « Tu le dis. » Les chefs des prêtres ont porté de nombreuses accusations contre Jésus. Alors Pilate l'a de nouveau interrogé. « Ne réponds-tu rien ? Tu entends combien d'accusations ils portent contre toi ?» Mais Jésus ne lui a plus rien répondu, de sorte que Pilate était étonné. C'est vrai. Imaginez combien ça peut être difficile de ne rien répondre, alors qu'il est tout puissant. Pour moi, si j'étais accusé de plein de choses, forcément j'essaierais de me défendre. Jésus, lui, n'a rien répondu, de sorte que Pilate était étonné. Il y avait de quoi être étonné. À chaque fête de la Pâque, Pilate libère un prisonnier, celui que la foule demande. Or, un certain Barabbas était en prison avec des rebelles qui avaient commis un meurtre lors d'une révolte. La foule s'est donc rendue à la résidence de Pilate et tous se sont mis à lui demander ce qu'il a l'habitude de leur accorder. Pilate leur a répondu « Voulez-vous que je vous libère le roi des Juifs ?» Il savait bien, en effet, que les chefs des prêtres lui ont livré Jésus par jalousie. Mais les chefs des prêtres ont poussé la foule à demander que Pilate leur libère plutôt Barabbas. Pilate s'est de nouveau adressé à la foule. « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils lui ont répondu en criant « Cloue-le sur une croix !» Pilate leur a demandé « Quel mal a-t-il donc commis ?» Mais ils l'ont crié encore plus fort « Cloue-le sur une croix !» Pilate a voulu contenter la foule et leur a libéré Barabbas. Puis il a fait frapper Jésus à coups de fouet et l'a livré pour qu'on le cloue sur une croix. Les soldats ont emmené Jésus à l'intérieur du palais du gouverneur et ils ont appelé toute la troupe. Ils l'ont revêtu d'un manteau rouge, ils ont tressé une couronne avec des branches épineuses et l'ont posée sur sa tête. Puis ils se sont mis à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Et ils l'ont frappé sur la tête avec un roseau. Ils ont craché sur lui et se sont mis à genoux pour s'incliner bien bas devant lui. Quand ils ont eu fini de se moquer de lui, ils lui ont enlevé le manteau rouge et lui ont remis ses vêtements. Puis ils l'ont emmené au dehors pour le clouer sur une croix. Un certain Simon de Cyrène, fils d'Alexandre, le père d'Alexandre et de Rufus, passait par là alors qu'il revenait des champs. Les soldats l'ont obligé à porter la croix de Jésus. Ils ont conduit Jésus à un endroit appelé Golgotha, ce qui signifie le lieu du crâne. Ils ont voulu lui donner du vin mélangé avec une drogue, la myrrhe, mais Jésus l'a refusé. Puis ils l'ont cloué sur la croix et se sont partagés ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun recevrait. Il était 9h du matin quand ils l'ont cloué sur la croix. Sur l'écriteau qui indiquait la raison de sa condamnation, il y avait ces mots « Le roi des Juifs ». Ils ont aussi cloué deux brigands sur des croix à côté de Jésus, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. C'est ainsi que s'est réalisé le passage de l'Écriture qui déclare « Il a été placé au nombre des malfaiteurs » Ésaïe 53:12. Les passants l'insultaient en hochant la tête et lui disaient « Hé, toi qui voulais détruire le temple et en bâtir un autre en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix !» De même, les chefs des prêtres et les maîtres de la loi se moquaient de Jésus et se disaient les uns aux autres « Il a sauvé d'autres gens, mais il ne peut pas se sauver lui-même. Que le Messie, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix. Si nous voyons cela, alors nous croirons en lui. » Ceux qui ont été mis en croix à côté de Jésus l'insultaient aussi. Sauf l'un des deux qui finira par changer d'avis, nous le savons. À midi, l'obscurité s'est faite sur tout le pays et a duré jusqu'à 3 heures de l'après-midi. De midi à 3 heures de l'après-midi, nuit noire. Et à 3 heures, Jésus a crié avec force, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là ont entendu et se sont écriés, « Écoutez, il appelle Élie !» L'un d'eux a couru remplir une éponge de vinaigre et l'a fixée au bout d'un roseau, puis il l'a tendue à Jésus pour qu'il boive. Et il a dit, « Attendez, nous allons voir si Élie vient le descendre de la croix. » Mais Jésus a poussé un grand cri, « Tout est accompli !» Et il est mort. Immédiatement, le rideau suspendu dans le temple s'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Le capitaine romain qui se tenait en face de Jésus a bien vu comment il est mort et il a dit « Cet homme était vraiment fils de Dieu ». Tout est fini. Fini les guérisons ? Fini les enseignements ? Fini le roi des Juifs ? Fini la libération ? Il y a tout de même cette affirmation du capitaine romain, cet homme était vraiment fils de Dieu. Et puis il y a l'alliance en son sang, instituée par Jésus au moment de la scène, peu avant sa mort. Et puis cette parole de Jésus, tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli ? Décidément, cette semaine est vraiment extraordinaire. Incroyable. Plus on avance, moins on comprend. Je sais pas vous, mais... Ensuite, quelqu'un a eu le cran d'aller demander à Pilate le corps de Jésus pour lui donner une sépulture décente. C'est un membre du conseil supérieur, nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'a point participé à la décision et aux actes des autres. Il est originaire d'Arimathée, ville des Juifs, et il attend le royaume de Dieu. Cet homme s'est rendu vers Pilate et a demandé le corps de Jésus. Il l'a descendu de la croix, l'a enveloppé d'un linceul et l'a déposé dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation, le vendredi. Le jour de la préparation de la Pâque, vraiment, le début du sabbat des Juifs. Le sabbat allait commencer. Les femmes qui sont venues de la Galilée avec Jésus ont accompagné Joseph. Elles ont vu le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y a été déposé. Et elles s'en sont retournées et ont préparé des aromates et des parfums. Puis, elles se sont reposées le jour du sabbat, conformément à la loi. Interminable journée de tristesse. Cette semaine, qui a commencé dans la joie et la liesse, se termine dans l'anéantissement et le deuil. Mais, très tôt le dimanche matin, les femmes se sont rendues au tombeau en apportant les huiles parfumées qu'elles avaient préparées. Elles ont découvert que la pierre fermant l'entrée du tombeau avait été roulée de côté. Elles sont entrées, mais n'ont pas trouvé le corps du Seigneur Jésus. Elles ne savaient qu'en penser, lorsque 2 hommes aux vêtements brillants leur sont apparus. Comme elles étaient saisies de crainte et tenaient leur visage baissé vers la terre, ces hommes leur ont dit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici, mais il est revenu de la mort à la vie. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. » Il faut que le Fils de l'homme soit livré à des pécheurs, qu'il soit cloué sur une croix et qu'il se relève de la mort le 3e jour. Elles se sont alors souvenues des paroles de Jésus. Elles ont quitté le tombeau et sont allées raconter tout cela aux 11 et à tous les autres disciples. C'était Marie de Magdala, Jeanne, et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui étaient avec elle ont fait le même récit aux apôtres. Mais ceux-ci ont pensé que ce qu'elles racontaient était absurde. Ils ne les ont pas crus. Cependant, Pierre s'est levé et a couru jusqu'au tombeau. Il s'est baissé et n'a vu que les bandes de lin. Puis il est retourné chez lui, très étonné de ce qui s'était passé. Ce même jour, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, qui se trouve à environ 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'est approché et a fait route avec eux. Ils le voyaient, mais quelque chose les empêchait de le reconnaître. Jésus leur a demandé « De quoi discutez-vous en marchant ?» Et ils se sont arrêtés tout attristés. L'un d'eux, appelé Cléopas, lui a dit « Es-tu le seul habitant de Jérusalem qui ne connaisse pas ce qui s'est passé ces derniers jours ?» Ça a fait le buzz, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. « Quoi donc ?» leur a-t-il demandé. Ils lui ont répondu ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. C'était un prophète puissant. Il l'a montré par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs de nos prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont cloué sur une croix. Nous avions l'espoir qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais en plus de tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces faits se sont passés. Et quelques femmes de notre groupe nous ont étonnés, il est vrai. Elles se sont rendues tôt ce matin au tombeau, mais n'ont pas trouvé son corps. Elles sont revenues nous raconter que des anges leur sont apparus et leur ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ont trouvé tout comme les femmes l'ont dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur a dit, « Gens sans intelligence, que vous êtes lents à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ainsi avant d'entrer dans sa gloire ?» Puis il leur a expliqué ce qui était dit à son sujet dans l'ensemble des Écritures, en commençant par les livres de Moïse et en continuant par tous les livres des prophètes. Quand ils sont arrivés près du village où ils se rendaient, Jésus a fait comme s'il voulait poursuivre sa route. Mais ils l'ont retenu en disant « Reste avec nous, le jour baisse déjà et la nuit approche. » Il est donc entré pour rester avec eux. Il s'est mis à table avec eux, a pris le pain et remercié Dieu. Puis il a rompu le pain et le leur a donné. C'est alors que leurs yeux se sont ouverts et qu'ils l'ont reconnu. Mais il a disparu devant eux. Ils se sont dit l'un à l'autre, « N'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se sont levés aussitôt et sont retournés à Jérusalem. 2 heures de marche, de nuit là, attention. Ils y ont trouvé les 11 disciples réunis avec leurs compagnons qui disaient « Le Seigneur est vraiment ressuscité, Simon l'a vu !» Alléluia, Christ est ressuscité. Fin de l'histoire. Non, début de l'histoire. Cette semaine marque le début d'une ère nouvelle. Et je vous parie que dans les années 2000, on en parlera encore. Cette semaine fera encore le buzz. La bonne nouvelle qui nous a été annoncée, c'est que le Christ est mort pour nos péchés. Ça nous a été rappelé aussi ce matin par Gilles. Le Christ est mort pour nos péchés comme l'avaient annoncé les Écritures. Il a été mis au tombeau et il est revenu à la vie le 3e jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 de ses disciples à la fois. Ce matin, à notre tour, nous avons entendu la bonne nouvelle du tombeau vide. Comment l'avons-nous reçue ? Comme une vieille histoire, trop connue ? Comme une nouvelle si énorme ? Un buzz si surprenant, si bouleversant, qu'il en viendrait à nous préoccuper ? Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Et toi, qu'en dis-tu ? Crois-tu cela ? Je suis, Jésus a dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Oui, Seigneur, a-t-elle répondu, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Et toi, qu'en dis-tu ? Ce matin, pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, que la résurrection ne soit ni une incertitude, ni une habitude, ni un fait divers, mais qu'elle soit une préoccupation. Tu es devant la grande nouvelle de ta vie. Tu es devant le plus grand choix de ta vie. Dieu, le vivant, est sur ton chemin aujourd'hui. Il est sur tes lendemains. Il te tend la main. Que vas-tu lui répondre ? Prendre sa main en signe de foi et de soumission, ou faire demi-tour et partir en courant, ou remettre la décision à plus tard et oublier dès que tu seras sorti d'ici. Si de ta bouche tu affirmes devant tous que Jésus est le Seigneur, et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ramené d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est par le cœur qu'on croit, et Dieu rend juste celui qui croit. Et c'est par la bouche qu'on affirme, et Dieu sauve celui qui fait ainsi. Tout est accompli. Alléluia. Christ est vraiment ressuscité. Christ est vivant. Joyeuse Pâques à chacune. Joyeuse Pâques à chacun. Je vous invite à un tout petit moment de silence. Christ est vraiment ressuscité, que la joie habite vos cœurs.
Bien, merci à chacun. Merci à chacun de penser à rallumer vos téléphones, parce que ceux qui vous joindraient risquent d'avoir des difficultés.